Nous avançons tranquillement dans notre voyage à travers les règles de discernement des esprits selon les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola. Cette série de 16 épisodes est l'adaptation française de la série d'entretiens en anglais « Le discernement des esprits, libération des captifs » du père Timothy Gallagher. Vous pouvez retrouver ces entretiens en anglais sur la chaîne YouTube de Discerning Hearts. C'est Isabelle Rebelle qui vous parle. Règle numéro 1. À l'égard des personnes qui vont de péché mortel en péché mortel, la conduite ordinaire de l'ennemi est de leur proposer des plaisirs apparents, leur occupant l'imagination de jouissances et de voluptés sensuelles, afin de les retenir et de les plonger plus avant dans leurs vices et dans leurs péchés. Le bon esprit, au contraire, agit en elles d'une manière opposée. Il aiguillonne et mord leur conscience, excitant le trouble et le remords, en leur faisant sentir les reproches de la raison. Nous venons d'entendre le texte de la première règle. Pour la comprendre, gardons en tête que Saint Ignace a écrit ces règles non pas enfermé tout seul dans une bibliothèque, mais en observant sa propre expérience et celle de tous ceux qui, très rapidement, se sont tournés vers lui pour obtenir son aide. Comme elle est basée sur du vécu, la meilleure manière de comprendre cette première règle est de décortiquer une expérience réelle et ensuite de passer de cette expérience à une compréhension plus générale du texte de Saint Ignace. L'expérience qu'on va utiliser pour illustrer son propos est celle de la conversion de Saint Augustin. Très précisément, ce qu'il vit dans les quelques minutes qui précèdent sa conversion spectaculaire, ces instants qu'il raconte dans ses confessions, au cours desquels il devient le grand saint que nous connaissons en laissant derrière lui 20 années passées loin de Dieu. Au chapitre 8 des Confessions, il raconte ce moment crucial de sa vie. Il écrit « J'étais sur le point de dire oui, mais je n'y arrivais pas. J'hésitais à mourir à la mort, à vivre à la vie. Plus l'instant approchait, plus cela me frappait d'épouvante. Mon ami Alipius s'en est aperçu. Je ne sais pas ce que j'avais pu dire à haute voix. C'est alors que je me suis levée. Alipius, lui, est demeuré assis. Il était au comble de la stupeur. Pour moi, je suis allée m'étendre sous un figuier et je me suis mis à pleurer. Mon Dieu, encore combien de temps? Combien de temps? Pourquoi pas tout de suite? Pourquoi ne pas en finir tout de suite avec ma honte? C'est ce que je me disais. Et je pleurais doucement. Mon cœur était comme broyé. J'ai entendu alors une voix venant de la maison voisine, comme d'un garçonnet ou d'une fillette, qui fredonnait à la manière d'une ritournelle. « Prends, lis, prends et lis. » En hâte, je suis revenue à l'endroit où Alipius était assis. J'avais posé là les épîtres de l'apôtre saint Paul. Je saisis le livre, je l'ouvris et je lus en silence le premier chapitre qui me soit tombé sous les yeux. Comportez-vous donc honnêtement, comme en plein jour. Fuyez donc une fois pour toutes les coucheries, l'ivrognerie, les débauches. Lâchez les orgies. Gardez-vous aussi des querelles et des jalousies. Revêtez-vous donc enfin de notre Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas du sexe et de la chair pour y satisfaire vos plaisirs déréglés. Je n'ai pas voulu en dire davantage. Je n'en avais pas besoin. J'ai senti dans mon cœur une lumière apaisante et toutes les ténèbres de mon doute ont disparu. Ça, c'est le récit de sa conversion. Mais ce sont les moments qui ont précédé sa conversion proprement dite, qui illustrent parfaitement le propos de Saint Ignace. Donc revenons un peu en arrière dans la vie de Saint Augustin. Le déchirement que vit Augustin trouve son origine dans son adolescence, à ses 15 ans. Son père avait bien vu que son fils était intelligent et il faisait tout pour qu'il puisse étudier. Mais l'année de ses 15 ans, les finances de la famille allaient très mal et son père n'a pas pu payer ses études. Augustin s'est alors retrouvé à ne rien faire et c'est là que les choses ont commencé à mal tourner pour lui. Il raconte sa vie dans sa petite ville natale de Tagaste en Afrique du Nord, dans ce qui est aujourd'hui la Tunisie, rêvant à la grande ville de Carthage avec l'espoir d'y aller pour commencer ses études de rhétorique. Il se décrit pendant cette année d'oisiveté, rempli d'un immense désir d'être libéré de toute contrainte. assez moderne comme sentiment, un jeune qui vient de finir son secondaire et qui est sur le point de quitter la maison pour aller à l'université. Quelque part dans ses confessions, il écrit « Je brûlais dès mon adolescence de me rassasier de basses voluptés. Et je n'eus pas honte de prodiguer la sève de ma vie à d'innombrables et ténébreuses amours. » Je brûlais de me rassasier. Il y avait en lui une énergie débordante, mais pas une énergie saine, plutôt des pulsions fortes. Il imaginait des délices de sensualité, de promiscuité, de sexualité, sans aucune restriction. Qu'il attendait, qu'il voulait, qu'il brûlait de vivre une fois qu'il aurait quitté sa petite ville de Tagaste. Il partit effectivement à Carthage l'année suivante, quand les finances familiales le permirent, et il réussit brillamment ses études. Il entama en même temps une vie très décousue, on pourrait dire assez contemporaine, une vie sexuelle débridée, un enfant hors mariage, une attirance pour toutes sortes de croyances orientales, etc. Et ça dura 20 ans. Cependant, à un certain moment, il commença à ressentir un certain malaise, qu'il avait du mal à décrire, une tristesse stérile, une lassitude fébrile, un découragement. Il y avait comme un grand vide en lui. Il ne trouvait jamais la paix. Il se sentait troublé, torturé, anxieux et insatisfait. Sa vie lui paraissait superficielle. Ces deux mouvements résument l'essentiel de sa vie intérieure. D'une part, cette pulsion irrésistible vers les choses sensuelles et sexuelles qui dominent pendant toutes ces années, et d'autre part, un sentiment croissant d'insatisfaction, d'anxiété, de vide, de superficialité qui ne le laisse jamais en paix. Et le jour de sa conversion, il est à la maison avec son ami intime Alypius et un autre de ses amis, Ponticianus, un Africain comme lui, dignitaire de haut rang à la cour de l'empereur. Un bon chrétien. Il bavarde. Ponticianus raconte une anecdote qu'il a entendue, sans avoir la moindre idée de l'impact qu'elle aura sur Augustin. Il raconte que deux dignitaires de moindre rang se promenaient en ville quand ils sont rentrés par hasard dans une maison où une communauté chrétienne se réunissait. Ils ont trouvé une copie de la vie de saint Antoine écrite par saint Athanase, un classique dans l'histoire de l'Église. Ils ont commencé à le lire et sont arrivés à ce moment bien connu de la vie de saint Antoine, peu de temps après la mort de ses parents, quand il est tout jeune homme et qu'il demande à Dieu ce qu'il veut qu'il fasse de sa vie. Alors qu'il est habité par cette question, Antoine entre dans une église, on y fait la lecture de l'Évangile et c'est le passage du jeune homme riche qui est lu. « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. » Antoine comprend que c'est la réponse de Dieu à sa question. Il rentre à la maison et il le fait. Il rassemble tous les biens de sa famille, les vend, donne tout aux pauvres et commence une vie au service des pauvres qui le mène finalement au désert et à la vie d'un des plus grands saints de notre histoire. Ponticianus continue son récit. Quand ces deux hommes lisent cette histoire, ils sont profondément touchés et décident sur le champ de faire la même chose. Et ils le font effectivement. Ils retournent chez eux, démissionnent de leur poste, donnent tout ce qu'ils possèdent, rejoignent la communauté de chrétiens et consacrent leur vie au Christ. Ponticianus quitte finalement ses deux amis sans avoir la moindre idée de la tempête que son récit a déclenchée dans l'âme d'Augustin. Parce qu'Augustin ne peut s'empêcher de comparer son incapacité année après année à changer sa vie pour se tourner vers Dieu à la réponse instantanée de ces deux hommes à l'appel de Dieu. Il décrit de façon très expressive dans les confessions l'amertume, la détresse qui l'envahissent à ce moment-là, et tous les détours et les méandres de ses pensées et son désir de changer et la tension intérieure vers cette conversion tellement convoitée et cette constatation déchirante que les vieilles chaînes le retiennent toujours. Encore et encore, ce mouvement d'avant en arrière, l'aspiration à suivre Dieu et le frein qui le retient dans sa vie de péché. Il parle de ces voix qu'il entend dans son dos. « Tu ne pourras plus jamais avoir ça, tu ne pourras plus jamais faire ça, de toute façon tu es trop faible, tu ne peux pas le faire. » Regarde le nombre de fois que tu as essayé. Des voix qui le découragent et l'immobilisent. Mais cette fois, à cet instant, il se passe aussi quelque chose d'autre. Il écrit dans les confessions. « Et déjà elle-même ne me parlait plus que d'une voix affaiblie. Car du côté où je tournais mon front et où je redoutais de passer, se dévoilait la chaste et sereine majesté de la continence, avec un C majuscule, et c'est sa manière de parler du Saint-Esprit qui murmure en lui, m'invitant non plus avec le sourire de la courtisane, mais par d'honnêtes caresses à m'approcher d'elle sans crainte, et elle étendait pour me recevoir et m'embrasser ses pieuses mains, toutes pleines de bons exemples. On voit dans son choix de mots que quelque chose a changé en lui, l'amertume, la détresse, l'accablement se sont évanouis, remplacés par quelque chose de doux, de chaud, de fortifiant, de rassurant, d'aimant. Il continue. Enfants, jeunes filles, jeunesse nombreuse, tous les âges, veuves vénérables, femmes vieillies dans la virginité, et dans ses saintes âmes la continence n'était pas stérile. Elle enfantait ces générations de joie céleste qu'elle doit, Seigneur, à votre conjugal amour. Et elle me semblait me dire d'une douce et encourageante ironie. Quoi ? Ne pourras-tu ce qui est possible à ses enfants, à ses femmes ? Est-ce donc en eux-mêmes et non dans le Seigneur leur Dieu que cela leur est possible ? C'est le Seigneur leur Dieu qui me donne à eux. Tu t'appuies sur toi-même et tu chancelles, et cela t'étonne ? Jette-toi hardiment sur lui, n'aie pas peur, il ne se dérobera pas pour te laisser tomber. Jette-toi hardiment, il te recevra, il te guérira. Et c'est à ce moment-là qu'il sent les larmes monter en lui, qu'il court sous le figuier, prend l'épître aux Romains, et qu'il lit la parole qui transforme définitivement sa vie. Comment comprendre ces tiraillements intérieurs, ces mouvements qui déchirent Augustin, ces envies irrésistibles, ces désirs sensuels et sexuels, son imagination qui les alimente par des images attirantes, son sentiment de vide, son agitation, son amertume, ses tourments, son accablement, son incapacité à trouver la paix, ses voix décourageantes. Tu n'y arriveras pas, tu as toujours échoué, tu es trop faible. Et cette voix, celle de l'Esprit-Saint, encourageante, regarde, les autres y arrivent, aie confiance en Dieu, il ne te laissera pas tomber. Cette image d'un sourire accueillant et aimant, c'est de ce genre d'expérience intérieure que saint Ignace parle dans la première règle, et dans la deuxième aussi d'ailleurs, comme on le verra. Mais relisons cette première règle. À l'égard des personnes qui vont de péché mortel en péché mortel, la conduite ordinaire de l'ennemi est de leur proposer des plaisirs apparents, leur occupant l'imagination de jouissances et de voluptés sensuelles, afin de les retenir et de les plonger plus avant dans leurs vices et dans leurs péchés. Le bon esprit, au contraire, agit en elles d'une manière opposée. Il aiguillonne et mord leur conscience, excitant le trouble et le remords, en leur faisant sentir les reproches de la raison. Ignace dit la chose suivante. À l'égard des personnes qui vont de péché mortel en péché mortel. Ça ressemble au jeune Augustin. Et n'y a-t-il pas encore aujourd'hui des gens, des chrétiens qui peuvent se reconnaître ici, comme le jeune Augustin, s'éloignant de Dieu avec des comportements sérieusement dangereux? Par exemple, ce jeune qui a cessé d'aller à la messe quand il a commencé l'université il y a 2 ans, qui s'est laissé embarquer dans une vie de promiscuité et de débauche. Ou cet homme dans la quarantaine qui n'a pas mis les pieds dans une église depuis 20 ans, pas toujours fidèle à sa femme, avec tout ce que cela implique, prêt à s'engager dans des pratiques commerciales malhonnêtes, quand c'est à son avantage. De péché mortel en péché mortel. Ignace dit, pour les personnes qui ne se soucie pas d'éviter les péchés, tous ceux dont la vie s'éloigne très clairement de Dieu et se dirige vers le péché, voici ce à quoi ils doivent s'attendre, ce qui va se passer dans leur vie intérieure. La conduite ordinaire de l'ennemi est de leur proposer des plaisirs apparents, leur occupant l'imagination de jouissances et de voluptés sensuelles afin de les retenir et de les plonger plus avant dans leurs vices et dans leurs péchés. Quand Ignace parle de l'ennemi, il parle de l'ange du mal, celui que les Écritures nomment le tentateur, l'accusateur, le menteur. Ignace partage tout à fait la croyance de l'Église dans la réalité de l'existence de l'ennemi, du démon. Il inclut aussi dans ce terme l'héritage du péché originel en nous, c'est-à-dire que même si le baptême nous libère du péché, nous gardons comme une faiblesse issue de ce péché originel. Nous restons sensibles à des attractions hostiles au plus profond de notre humanité, des attractions auxquelles nous devons résister sous peine d'être entraînés hors du chemin que Dieu nous prépare. La tradition catholique a un mot pour cette faiblesse, la chair, qui a des désirs qui travaillent contre nous. Saint Paul utilise ce vocabulaire. Il y a aussi le terme concupiscence qu'on retrouve dans la première lettre de Jean. Plus tard, les théologiens ont parlé des 7 péchés capitaux, des tendances sombres au fond de chacun, qui, si on n'y résiste pas, éloignent de Dieu. En fait, c'est la triade classique du monde, de la chair et du démon. Le monde, les influences du monde autour de nous, par exemple certains usages des médias, certains lieux, certains types de relations qui nous séparent de Dieu si nous n'y résistons pas. C'est tout ça qu'Ignace inclut dans le mot « ennemi ». Et pour les gens comme le jeune Augustin dont la vie s'écarte de Dieu et se dirige au contraire vers le péché, l'ennemi a l'habitude, dit Ignace, d'agir d'une manière bien particulière. Ça serait drôlement pratique de savoir d'avance quelle est cette manière de faire de l'ennemi. C'est justement ce que dévoile la première règle. Quand on repense aux trois étapes de base du discernement qu'on a expliquées la dernière fois, prendre conscience, comprendre, agir, il est clair que si on sait d'avance comment l'ennemi a l'habitude de fonctionner, ce sera beaucoup plus facile de comprendre ce qui se passe en nous. Notons au passage que saint Ignace nous rend déjà un énorme service en nous prévenant que nous avons un ennemi dans la vie spirituelle. Le pire, c'est quand on ne sait même pas qui sont les protagonistes du drame qui se joue en nous. En comprenant mieux les forces spirituelles en jeu à l'intérieur de nous, nous sommes en bien meilleure position pour réagir plus rapidement, plus efficacement, avec plus de précision aux tactiques de l'ennemi. Et évidemment, il faut le dire tout de suite, s'il y a un ennemi, il y a aussi bien sûr un sauveur. L'ennemi est très faible, son pouvoir est anéanti par la puissance et l'amour du sauveur. Mais il est sage de savoir que l'ennemi existe. Et en réalité, on le sait tous très bien. À chaque fois qu'on essaye sincèrement de prendre de nouvelles résolutions pour mieux aimer et servir le Seigneur dans la prière et le service, en vivant plus selon l'Évangile, en s'impliquant davantage dans l'Église, à chaque fois une résistance se fait sentir, malgré le désir sincère d'aller de l'avant. Eh bien, cette résistance, c'est probablement un peu de ce que saint Ignace appelle l'ennemi. Donc, Ignace nous enseigne qu'à ceux qui mènent une vie qui les éloigne de Dieu, comme le jeune Augustin, ou cet étudiant à l'université, ou cet homme dans la quarantaine dont nous parlions, la conduite ordinaire de l'ennemi est de leur proposer des plaisirs apparents, leur occupant l'imagination de jouissances et de voluptés sensuelles, afin de les retenir et de les plonger plus avant dans leurs vices et dans leurs péchés. On l'a vu agir ainsi pendant la jeunesse d'Augustin. « Je brûlais de me rassasier de basses voluptés », écrit-il dans ses confessions. Son imagination devait déborder d'images de plaisirs charnels. Et ça marchait, ça l'a retenu loin de Dieu pendant 20 ans. Pour le jeune étudiant dont on parlait, 2 ans déjà, et plus, sûrement, s'il n'ouvre pas les yeux, ne s'ouvre pas sur ce qui se passe en lui. Pour l'homme dans la quarantaine, 20 ans à vivre cette double vie, et combien de temps encore avant qu'il ne réalise ce qui lui arrive ? Et aujourd'hui, ces distractions, ces tentations de l'ennemi sont encore plus puissantes, car on vit dans un monde où on est bombardé par les médias, que ce soit à la télévision, sur Internet, par la musique, partout. On est submergé d'une manière très concrète, très visuelle de distractions et de tentations, en plus de celles produites par notre propre imagination. Nous vivons dans une culture de l'image. Ce n'est pas mal en soi, bien sûr. Il y a de très belles images, des œuvres d'art, des films qui enrichissent la vie spirituelle. Les images et les médias peuvent faire énormément de bien, mais elles peuvent aussi très bien faire le jeu de l'ennemi. Quand l'étudiant s'installe devant la télé tard le soir et regarde ce qu'il aurait mieux fait de ne pas voir, que se passe-t-il dans son imagination ? Quel esprit travaille en lui, le bon ou le mauvais ? Il est prudent de prendre garde aux images qu'on laisse entrer dans son cerveau. Il vaut mieux se protéger. Saint Ignace explique que quand quelqu'un est en train de s'éloigner de Dieu, c'est par son imagination, qui fait bien entendu partie intégrale de notre humanité, que l'ennemi le manipule. Précisément en remplissant son esprit d'images qui allument ses sens et ses désirs charnels. Revenons à notre étudiant, il est 10 heures du soir, son téléphone sonne, un de ses amis, entre guillemets, l'appelle. On est tout un groupe qui pense aller dans les Caraïbes pour les vacances de Noël, est-ce que tu veux venir ? Quel esprit travaille en lui pour le maintenir sur le mauvais chemin, afin de le retenir et de le plonger plus avant dans ses vices et dans ses péchés, dit saint Ignace. Une fois qu'on sait que c'est comme ça que l'ennemi travaille habituellement, il est beaucoup plus facile de déchiffrer ce qui se passe et de réagir. Au fait, comment Ignace sait-il de quelle manière l'ennemi a l'habitude d'agir avec ceux qui s'éloignent de Dieu et vont de péché en péché ? Parce qu'il l'a vécu, il s'est trouvé dans cette situation, à aller de péché mortel en péché mortel. La beauté, c'est que cette expérience du temps où il se tenait loin de Dieu s'est transformée en règles, les règles du discernement, qui sont précieuses et salvatrices. Rien n'est jamais perdu avec Dieu, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Nous qui avons aussi probablement vécu des périodes loin de Dieu, il n'y a rien qui ne puisse produire des bienfaits, porter du fruit, rien qui ne puisse être transformé et devenir salvateur une fois que nous décidons de changer de vie. Et saint Ignace, saint Augustin et tant d'autres en sont la preuve. Ces périodes difficiles peuvent devenir source de bénédiction pour nous-mêmes et parfois pour d'autres aussi. Quelle est cette phrase célèbre de saint Augustin quand il reprend les mots de saint Paul ? Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et il ajoute deux mots. Nous savons du reste que toute chose, même le péché, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La règle comporte une deuxième partie. Il y en a toujours une, parce que l'enseignement de saint Ignace est un message d'espoir, de libération, de bonté. La première partie parlait de ce que l'ennemi, l'esprit mauvais, fait, mais le bon esprit ne reste pas inactif pendant ce temps-là. C'est ce qu'explique la deuxième partie. Ignace écrit « À l'égard des personnes qui vont de péché mortel en péché mortel, le bon esprit, au contraire, agit en elles d'une manière opposée. Il aiguillonne et mord leur conscience, excitant le trouble et le remords, en leur faisant sentir les reproches de la raison. » Quand Ignace parle du bon esprit, il parle avant tout du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Il parle des anges bienfaisants, qui sont les messagers de Dieu envoyés pour nous fortifier, nous éclairer, nous encourager le long du chemin, comme nous le répètent les Écritures. Il parle aussi de la richesse infinie, de la puissance de la grâce de Dieu, reçue au moment du baptême. S'il y a en nous une faiblesse charnelle, héritée du péché originel, il y a encore plus par le baptême la force de la grâce de Dieu, de la grâce sanctifiante de Dieu, de la Trinité qui habite en nous, la capacité de croire, d'aimer, d'espérer, toutes les autres vertus, les dons de l'esprit, nos dons personnels, nos talents reçus de Dieu. Il y a en nous une abondance de bienfaits qui font partie de ce que saint Ignace appelle le bon esprit. Il veut aussi parler des influences du monde autour de nous. S'il y a dans le monde des influences auxquelles on doit résister, car elles éloignent de Dieu, il y a encore plus d'influences qui, si on reste disponible et ouvert, conduisent à Dieu. Par exemple, pour saint Ignace, sa belle-sœur et les deux livres qu'elle lui a donnés sont clairement des instruments du bon esprit. Ponticianus et l'histoire qu'il raconte à Augustin sont aussi clairement des instruments du bon esprit au travail dans la vie d'Augustin. Si on s'arrête quelques minutes pour y penser, on reçoit beaucoup d'influences positives de personnes, de communautés, de livres. Dieu est constamment au travail autour de nous. C'est tout cela aussi qu'englobe le terme « bon esprit ». Dieu lui-même et tous les moyens qu'il utilise pour nous mener à lui. Chez ceux et celles qui sont dans cette situation de séparation de Dieu, comme le jeune Augustin, le bon esprit, dit saint Ignace, fait exactement le contraire de ce que fait l'ennemi. Il s'agit d'un point important des règles. Si l'ennemi fait une chose, le bon esprit va faire exactement le contraire. Donc si l'ennemi essaye de nous faciliter la vie quand nous nous éloignons de Dieu dans l'erreur, le bon esprit va faire l'opposé et essayer de nous mettre des bâtons dans les roues. Saint Ignace écrit « Le bon esprit aiguillonne et mord leur conscience, excitant le trouble et le remords en leur faisant sentir les reproches de la raison. » C'est le trouble, l'anxiété, l'insatisfaction dont parle Augustin dans les Confessions. On doit les souhaiter, cette morsure, cet inconfort, cette insatisfaction, ce vide, cette incapacité à trouver la paix, pour nous réveiller, pour nous pousser à faire le seul changement qui nous donnera la paix intérieure. Saint Augustin le dit si bien dans cette phrase célèbre « Notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi ». Si l'ennemi travaille dans l'imagination, le bon esprit, lui, atteint les personnes qui s'éloignent de Dieu par la raison, la rationalité, la morsure du jugement moral. Reprenons l'exemple de cet homme dans la quarantaine, détourné de Dieu depuis 20 ans. Son jeune fils, par la grâce de Dieu, pourrait-on penser, va au catéchisme et prépare sa première communion. Il le conduit à l'église le dimanche matin, mais ne reste pas, c'est sa femme qu'il ramènera. Mais voilà que des pensées nouvelles lui traversent l'esprit. Son fils pourrait bien lui demander un beau jour pourquoi il ne reste pas, pourquoi il ne communie pas comme sa mère. Et que se passera-t-il le jour de la première communion? Il n'y avait pas pensé. Il est sur l'autoroute et son esprit vagabonde. La radio est éteinte, le téléphone cellulaire est silencieux. Il entend son cœur battre. Des pensées inhabituelles traversent son esprit encore une fois. Pourquoi mènes-tu cette vie? Tu sais bien que tu rends ta femme malheureuse. Pourquoi le fais-tu? Tu sais bien au fond de toi que tu n'es pas heureux toi-même de vivre comme ça. Combien de temps ça va encore durer? Quand dans 10 ou 20 ans tu regarderas ta vie d'aujourd'hui, est-ce que tu en seras fier ? Ce sont des réflexions qui aiguillonnent et qui mordent, des pensées inconfortables, dérangeantes, qui l'agitent. Et il a le choix, il pourrait juste tendre le bras, allumer la radio, et ça serait fini. Mais s'il est prêt à laisser ses pensées dérangeantes aiguillonner et mordre sa conscience, excitant le trouble et le remords en lui faisant sentir les reproches de la raison, s'il est prêt à laisser ses pensées agir en lui, il est à un doigt d'un changement, d'une conversion, d'une vie complètement nouvelle en communication avec Dieu. C'est l'action du bon esprit qui aiguillonne et qui mord. Notre Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de paix. Et c'est ce qu'il est, un Dieu de paix. Mais il est par-dessus tout un Dieu d'amour qui nous aime trop pour nous laisser nous perdre. C'est pour ça qu'il aiguillonne et mord. Jusqu'à ce que nous ayons compris et que nous fassions le seul changement qui nous rendra vraiment heureux. Francis Thompson, un poète catholique anglais de la deuxième moitié du XIXe siècle, a merveilleusement bien exprimé dans son poème « Le lévrier du ciel » la piqûre et la morsure du bon esprit à l'œuvre dans la vie de celui qui le fuit. Un poème qu'il a bien sûr écrit à un moment où lui-même fuyait Dieu. « Je l'ai fui dévalant les nuits et les jours. Je l'ai fui traversant les arches des ans. Je l'ai fui le long des voies labyrinthiques de mon esprit. Et dans la brume des larmes, je me suis caché de lui sous des cascades de rire. » Et finalement, vient ce moment magnifique quand l'âme humaine cesse enfin de courir et que se tait l'écho des pas en fuite. Ce piétinement s'arrête-t-il ? Et alors monte cette interrogation bouleversante. Serait-ce mon obscurité, l'ombre de sa main tendue pour caresser ? Mon obscurité, toute cette amertume, cette torture interne, ces doutes seraient l'ombre de sa main tendue pour me caresser ? C'est bouleversant. Obscurité, oui. Lutte, oui. Vide, oui. Mais ce n'était jamais rien d'autre que l'ombre de la main de Dieu, tendue pour caresser, pour ramener à lui celui ou celle qui s'égarait. Disons que l'homme dans la quarantaine dont on parlait tout à l'heure écoute le bon esprit et revient vers Dieu. Il parle au prêtre, raconte l'amertume, le vide, l'angoisse de sa vie qui pour lui sont les signes les plus clairs que Dieu ne s'intéresse pas à lui. Et le prêtre, en lui montrant qu'au contraire, ce vide, ce mal-être sont des signes que Dieu ne veut pas le laisser tomber, lui permettra de commencer à revenir vers le Seigneur. C'est très émouvant quand on relit sa vie avec l'aide d'un accompagnateur spirituel, par exemple, et qu'on découvre, après avoir changé de vie, que tous ces moments sombres et vides qui paraissaient des preuves de l'absence de Dieu étaient en fait les signes les plus évidents que Dieu nous aime trop pour nous abandonner sur nos chemins de perte. C'était l'action du bon esprit qui nous aiguillonnait et nous mordait alors que nous étions en train de nous éloigner dangereusement de Dieu. Alors voilà, c'est ça la première règle. Quand quelqu'un se retrouve sur un chemin spirituel dangereux qui l'éloigne de Dieu, l'ennemi va essayer de le maintenir dans son erreur en peuplant son imagination de toutes sortes d'images qui exploitent tous ses sens, alors que le bon esprit va mordre et piquer sa conscience en s'appuyant sur sa raison et son jugement moral pour le réveiller et lui faire prendre conscience qu'il a besoin de changer. Et s'il est ouvert à changer, une nouvelle vie pourra commencer avec la promesse d'un vrai bonheur.